Alors nous arrivons au terme de notre série de prédications basées sur l'épître de Paul aux Colossiens. Nous avons décidé de consacrer 9 dimanches à cette série. On a commencé le 31 août et on finit donc ce matin. Et ces 9 prédications ont été partagées par 7 frères. J.L., Colin, Pierre, Philippe, François, 2 fois, Mustapha, et puis moi-même 2 fois. Alors, je vous invite donc à trouver Colossiens 4, versets 2 à 18, et le thème ce matin, c'est « Prions les uns pour les autres ». Je lis à partir du verset 2. « Persévérez dans la prière. Veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous. Que Dieu nous ouvre une porte pour que la parole... Que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tychique, qui est notre frère bien-aimé et un serviteur fidèle et mon compagnon de service dans le Seigneur, vous informera de tout ce qui me concerne. Je vous l'envoie exprès pour qu'il prenne de vos nouvelles et réconforte votre cœur. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère qui est l'un des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont parmi les circoncis les seuls qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu, et ils ont été un grand encouragement pour moi. Épaphras, qui est l'un des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Je lui rends en effet ce témoignage. Il se dépense sans compter pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hierapolis. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Saluez les frères et sœurs qui sont à Laodicée, ainsi que Nymphas et l'Église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'Église des Laodiciens. Lisez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. Dites à Archippe, veille sur le ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien l'accomplir. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de ma condition de prisonnier. Que la grâce soit avec vous. Prions les uns pour les autres. Alors, ce que j'ai fait pour ce matin, j'ai séparé ou j'ai divisé ce texte en 2 parties. D'abord, ce que j'appelle des requêtes fraternelles. Paul demande des choses. Et ensuite, ce que j'appelle des salutations fraternelles. Paul salue, et plusieurs personnes se saluent les uns les autres. Alors, on va passer d'abord à nos prières. Colossiens 2, versets 2, 3 et 4. Alors, avec ces deux images, ne croyez pas que vous soyez obligés soit de prier comme ça, ou soit de prier à genoux en transpirant et en pleurant. Mais c'est deux façons de prier, et il y a d'autres façons de prier aussi. Alors, que dit Paul au sujet de la prière? Eh bien, il dit tout simplement, persévérer dans la prière. Est-ce que nous avons besoin de persévérer dans la prière? Je pense que nous avons tous besoin d'écouter ce texte de Paul, persévérer dans la prière. Que Dieu nous aide à persévérer dans la prière et à mettre en pratique le deuxième verset le plus court de la Bible qui dit, prier sans croyez que quelqu'un allait dire sans croire. Non, heureusement, sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. La deuxième chose, il dit, mais veillez-y. Alors, pour comprendre, veillez-y de deux manières. On va veiller pour trouver des sujets de prière, et on va veiller pour trouver des réponses à nos prières. Parce que parfois Dieu répond à nos prières, et ce n'est pas toujours nos réponses, mais ce sont ses réponses, et parfois on ne se rend pas compte qu'il a déjà exaucé nos prières. Eh bien, on doit veiller à trouver des sujets et veiller à trouver des réponses. Et la troisième chose qui est dit au sujet de la prière, soyez reconnaissants. Priez avec action de grâce. Et très souvent, dans les épîtres de Paul, quand il dit qu'il faut prier, il dit en même temps, il faut remercier le Seigneur pour les réponses, mais aussi pour tant de preuves de sa bonté et de sa bienveillance. Je pense à un petit chant qu'on a enseigné au club d'enfants et autrefois, juste un petit mot, M-E-R-C-I. Juste un petit mot pour dire merci. Lorsque vous priez, persévérez dans la prière, mais remerciez Dieu pour la prière. On peut trouver trois mots pour résumer ces trois aspects de la prière. Persévérance, vigilance, reconnaissance. Paul nous encourage à prier pour lui. N'oubliez pas, il était en prison. Il était en prison pour sa foi. Et il était aussi un missionnaire. Et Paul nous donne quelques pistes pour savoir comment prier pour des missionnaires. On peut dire, Seigneur, bénis tous les missionnaires du monde. C'est une façon de prier. Mais on peut prier de façon plus précise. Et Paul donne trois pistes de prière pour les missionnaires. Il dit, priez pour que j'aie une porte ouverte. Il ne parlait pas de la porte de la prison, je pense, mais qu'une porte s'ouvre pour qu'il puisse parler de Jésus. Il dit, priez pour que je puisse avoir une bouche ouverte, afin que je puisse annoncer la parole à des gens. Et tout cela sous-entend que Paul nous demande, Paul demande aux Colossiens de prier qu'il puisse y avoir des cœurs ouverts, qu'une porte s'ouvre, que Paul ouvre sa bouche et que des cœurs puissent s'ouvrir pour recevoir la parole. Dans Actes 16, nous lisons que l'Éternel ouvrit le cœur de Lydie. C'est Dieu qui ouvre des cœurs. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prier. Lorsque nous témoignons, on doit parler avec sagesse, mais on doit prier que Dieu ouvre des cœurs pour que des cœurs s'ouvrent et que des gens reçoivent l'Évangile. C'est sûr, on doit prier pour la mission. On doit prier pour les missionnaires. Mais je propose aussi que nous devons prier pour notre Église, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes seules, les couples, les familles. Et je fais une petite publicité par rapport à ceux qui ont des enfants. Je viens de lire un livre qui m'a pas mal interpellé, qui s'appelle « Élever ses enfants à l'ère numérique, le danger des écrans ». Pour les enfants et pour les adultes. J'arrête ma publicité. C'est pas moi qui ai écrit ce livre. En tout cas, on peut l'acheter. Il vient de sortir à la Maison de la Bible. Il est question de nos prières. Il est question aussi de notre temps. Parce que Paul dit, rachetez le temps. Verset 4, verset 5. Rachetez le temps. Et il dit, en rachetant le temps, on doit se conduire avec sagesse. Se conduire avec sagesse envers qui? Il parle de ceux qui sont à l'extérieur, à ceux qui sont dehors. Alors, il ne s'agit pas forcément de ceux qui sont à l'extérieur de ce bâtiment, mais de ceux qui sont à l'extérieur de la famille de Dieu. Et Paul dit bien, conduisez-vous avec sagesse dans vos rapports avec les non-chrétiens. Et tout cela est tout à fait à propos pour nous. On doit toujours se conduire avec sagesse envers les non-chrétiens. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, il faut se conduire honnêtement envers ceux du dehors. Est-ce que nos relations avec les non-chrétiens que nous connaissons, est-ce qu'elles sont marquées par la sagesse, par le bon sens ou pas? Autrement dit, est-ce que nous avons un bon témoignage envers les non-chrétiens? Ou est-ce que nous avons un contre-témoignage envers les non-chrétiens? Paul dit, il faut se conduire avec sagesse, et il dit aussi, il faut racheter le temps. Le temps est un capital que Dieu nous donne et nous devons le gérer de la meilleure manière possible. Il y a des séminaires time management, la gestion du temps, pour des employeurs, pour des employés, pour des pasteurs, pour des anciens. J'ai assisté à quelques-uns de ces séminaires et j'en ai même essayé de reproduire ma sauce. Il faut savoir utiliser et gérer son temps. Et je crois que Dieu nous demande de reconnaître tout ce qui peut manger notre temps de façon inutile, les chronophages, les personnes chronophages, les activités chronophages. Et le Seigneur, je crois, il veut qu'on distingue entre ce qui est urgent, ce qui est important, voire même prévoir ce qui est imprévisible. C'est peut-être impossible de prévoir l'imprévisible, mais en tout cas, on doit savoir réagir quand il y a des imprévus. Est-ce que nous sommes maîtres de notre temps? Il y a un dicton entre les Africains et les Européens qui dit ceci: les Occidentaux ont des montres, mais ils n'ont jamais le temps. Les Africains, on a des montres, non, on n'a pas de montres, mais on a toujours du temps. Alors, les Africains, frères et sœurs parmi nous, j'espère qu'ils vont me contredire, mais en tout cas, bref, il y a du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Et Paul dit, mais il faut bien gérer son temps. Il faut bien investir son temps. Dans le livre « Le leader spirituel », Oswald Sanders dit ceci: « Chaque moment de la journée est un don de Dieu et devrait être cultivé avec le soin d'un avare. » Intéressant. Notre temps. Et puis il est question aussi de nos paroles. De nos paroles. Que nos paroles soient accompagnées de grâce. Enfin, afin de pouvoir savoir, pas seulement parler, mais afin de savoir répondre aux gens. Il est écrit dans Luc 4, 22, « Les gens étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. » Est-ce que vous avez l'habitude de dire des paroles de grâce, de paroles gracieuses? Un psaume prophétique et messianique, le psaume 45, nous dit ceci au sujet de Jésus: « La grâce est répandue sur ses lèvres. » La grâce est répandue sur ses lèvres. Est-ce que la grâce est répandue sur nos lèvres? Est-ce que nos paroles sont marquées par la grâce ou est-ce que nos paroles agacent les gens? Accompagnées de grâce et aussi assaisonnées de sel. Je vous propose que cette chère dame, ces paroles ne sont pas forcément assaisonnées de sel ou accompagnées de grâce, tout comme les deux messieurs tout à l'heure qui étaient en train de se rouspéter. Accompagnées de sel, vous savez bien que le sel autrefois et même aujourd'hui était utilisé pour conserver la nourriture, pour assaisonner la nourriture, pour donner un petit plus. Et ceux qui doivent manger avec un régime sans sel savent que ce petit plus manque énormément. Eh bien, si le Seigneur nous dit d'avoir des paroles assaisonnées de sel, c'est pour que nos paroles aussi puissent donner un petit plus, des paroles bienfaisantes. Parfois, on a ajouté du sel à certains sacrifices dans le livre de Lévitique. On a ajouté du sel. Et le sel était surtout un symbole de la fidélité de Dieu envers son peuple. Mais ça devait représenter aussi la fidélité du peuple envers son Dieu. Et si Paul nous dit d'avoir des paroles accompagnées de sel, eh bien c'est aussi parce que nos paroles doivent être marquées, pas seulement par la grâce, mais par la fidélité. Fidèle dans nos paroles, fidèle dans nos promesses. La grâce et le sel. Parler avec sel. Il est facile de parler avec zèle, plus difficile de parler avec sel, accompagné des grâces, assaisonné de sel. L'apôtre Pierre, dans son épître, encourage les chrétiens à répondre avec douceur et crainte, ou douceur et respect. Quel est le contraire de douceur? Il y en a peut-être plusieurs, mais une parole qui vient bien à l'esprit, c'est le mot agressivité. Est-ce que vous parlez avec douceur ou est-ce que vous parlez avec agressivité? Il y a des gens qui me disent, David, il y a trop de chrétiens qui sont trop agressifs. Il y a deux chrétiens qui me disent, il y a trop de chrétiens qui sont trop pas agressifs. Vous voyez la différence? Il y a une liaison qui n'existe pas en principe. En tout cas, il y a trop de chrétiens qui sont trop agressifs dans la parole. Et on doit veiller à ce que nos paroles ne soient pas marquées par l'agressivité. On n'est pas là pour casser. On n'est pas là pour démolir. On est là pour construire. On est là pour répandre les paroles de grâce de Jésus-Christ. On est là pour restaurer nos paroles. Voilà donc les trois requêtes de la part de Paul. Et puis il y a les salutations fraternelles, de verset 12 à verset 18. Quand on lit les actes des apôtres et les épîtres de Paul, on peut compter à peu près 100 personnes que Paul nomme et 100 personnes qui étaient des collaborateurs ou des collègues ou des amis de Paul dans ses voyages à droite et à gauche. Rien que dans Romains 16, Paul nomme 26 personnes qui étaient avec lui ou qu'il voulait saluer dans l'église romaine. Eh bien, ici, dans ces derniers versets, Paul nous donne une liste de plusieurs personnes qui sont marquées là-haut. Et deux de ces personnes vont aller à Colosse pour rendre visite aux Colossiens. Il s'agit de Tychique et de Onésime. Et puis, les autres saluent les Colossiens. Ils transmettent des salutations fraternelles. Alors, on va parcourir cette liste rapidement. Il y a d'abord Tychique. Alors, Tychique, c'est un nom qui signifie fortuite. Et vous savez que rien n'est fortuite dans la vie. Rien n'arrive par hasard. Tout est conduit par la main du Seigneur. Eh bien, Tychique, il est un frère bien-aimé. C'est bien d'avoir des frères bien-aimés. Il est un serviteur ou un compagnon fidèle. C'est bien. Et on pourrait dire que Tychique est un type chic. Parce qu'il était fidèle et bien apprécié. Et Paul dit, Tychique va arriver chez vous. Il va à la fois vous donner de mes nouvelles, parce qu'Internet ne marchait pas bien en prison à l'époque, et il va aussi revenir vers moi avec vos nouvelles. C'était un frère qui allait faire des voyages. Et ce frère était mentionné ici, et on le trouve aussi ailleurs dans les épîtres de Paul. Un deuxième frère, c'est Onésime. Lui aussi, c'est un frère fidèle, un frère bien-aimé. Et Onésime était aussi un Colossien. Si vous connaissez l'épître de Paul à Philémon, vous avez une mini-biographie de la vie d'Onésime, quelqu'un qui s'était converti en prison grâce au ministère de l'apôtre Paul, grâce aux paroles assaisonnées de sel de l'apôtre Paul auprès d'Onésime. Donc Onésime va partir, il va aussi aller à Colosse. Et le nom Onésime signifie fidèle et utile. Et Onésime était fidèle à son nom, parce que c'était un frère fidèle et aussi un frère utile. Et puis il y a Aristarque, numéro 3. Aristarque, c'était un compagnon, un ami de Paul, dont on parle dans le livre des Actes des Apôtres. Aristarque, c'est quelqu'un qui a failli se faire lyncher lors d'une émeute antichrétienne à Thessalonique, dans Actes 19, le Seigneur n'a pas permis qu'il se fasse tuer par la foule qui était folle. Et puis, Aristarque était aussi avec Paul dans un voyage en bateau, et le bateau a fait naufrage. Et encore, le Seigneur avait sa main sur Paul, Aristarque et d'autres, et Aristarque n'est pas mort dans cet naufrage. On peut dire que Aristarque était un ami qui est resté fidèle, quelles que soient les circonstances. Malgré des émeutes, malgré des tempêtes, des naufrages, malgré le fait que Paul était en prison, malgré des longs voyages, Aristarque est resté fidèle envers son ami. En Proverbe 17:17, nous lisons, un ami aime en tout temps. Un frère est là pour aider dans la détresse. Un bon ami. Est-ce que nous sommes des bons amis envers nos bons amis? Ou si vous voulez me demander, mais David, est-ce que je peux trouver des bons amis? Eh bien, je répondrai, mais soyez un bon ami. Et vous trouverez des bons amis. Un ami aime en tout temps. Et puis il y a Marc, ou Jean-Marc. Jean-Marc est l'auteur du deuxième évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et Jean-Marc est ici, il est écrit qu'il est le cousin de Barnabas. Nous savons aussi que la maman de Marc s'appelait Marie. On parle d'elle dans Actes 12. Marc, autrefois, était un collègue missionnaire de l'apôtre Paul. Et pendant une mission, pendant un voyage missionnaire, Marc a fait demi-tour. Il a quitté l'équipe missionnaire et Paul s'est mis en colère à cause de cette trahison ou de cet abandon de la part de Marc. Il était très déçu par son attitude. Mais entre-temps, les deux se sont réconciliés et Paul dit ici au sujet de Marc, mais Marc va aussi arriver chez vous et faites en sorte qu'il soit bien reçu. Dans la toute dernière lettre de Paul, c'est 2 Timothée, et au chapitre 4, Paul dit, « Marc m'est fort utile pour le ministère. » Marc avait bien commencé, il a eu un moment de flottement peut-être, erreur de la jeunesse, que sais-je, et puis après, il est revenu et il était fidèle envers le Seigneur. Est-ce qu'on a le droit de faire des erreurs lorsqu'on est chrétien? Ou est-ce qu'on doit toujours être parfait, au top? Il ne me reste que 6, donc ne vous battez pas à la fin du culte. Des bêtises de Cambrai. Quand je pense à Marc, je pense aux bêtises de Cambrai. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a presque 2 siècles, un garçon qui s'appelait Émile Afichien, qui habitait dans la ville de Cambrai, il était apprenti confiseur. Et ses parents, qui étaient aussi ses patrons, lui ont dit de préparer des bonbons pour la vente. Donc, il a essayé de suivre la recette qu'on lui a donnée. Il s'est trompé. Et quand ses parents ont goûté aux bonbons, oh, c'était la maman qui a pris la parole, c'est peut-être souvent ça dans la famille, je ne sais pas. Ils sont ratés, tes bonbons. Émile, tu n'es qu'un bon à rien. Émile, tu as encore fait des bêtises. Pendant que la maman mangeait les bonbons et disait qu'ils ne sont pas bons, les bonbons étaient sur le comptoir et se vendaient, excusez-moi le mélange de métaphores, se vendaient comme des petits pains. Donc tout le monde prenait ces bonbons. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bons, rafraîchissants. Et ils sont bons, délicieux ces bonbons. Alors, c'est une erreur de la part d'Émile, ce jeune homme, mais tout le monde a dit, mais ils sont délicieux. Et la même recette, par erreur, existe toujours aujourd'hui. Les bêtises de Cambrai. C'est des bonbons qu'on ne croque pas, il faut les sucer. Vous pouvez les croquer, mais vous allez vous casser les dents. Il m'en reste 6, donc si vous voulez, vous les prenez après. En tout cas, tout ça pour dire que Marc, il a peut-être fait des bêtises. Qui n'en a pas fait? Mais il était récupérable. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et quand on fait des erreurs, quand on se trompe de voie, quand on tombe dans le péché, eh bien, le Seigneur est toujours là pour récupérer. Et nous devons aussi nous dire, mais Seigneur, merci pour ta grâce envers Marc, envers tant d'autres, envers nous, envers moi. L'erreur n'est pas fatale. Dieu peut s'en servir, le transformer pour le bien. Il y a aussi Jésus Justus. Jésus, c'est son nom juif. Justus, c'est son nom romain. Comme Marc et Aristarque, Paul nous dit que les trois étaient des juifs messianiques. Le terme juif messianique n'apparaît pas dans le texte, mais il dit que ce sont des circoncis, donc des juifs qui se sont convertis. Et il dit, ces frères-là ont été un grand encouragement pour moi. C'est bien d'avoir des grands encouragements. Nous devons chercher à être des grands encouragements pour nos frères et sœurs. Parfois, on est des grands découragements pour nos frères et sœurs. Surtout si nos paroles ne sont pas assaisonnées de grâce et de sel. On va les décourager. Mais on peut encourager nos frères et sœurs. Et puis, Épaphras. Épaphras, c'est quelqu'un qui prie et qui bosse. Paul le dit. Il ne cesse de combattre dans ses prières pour vous. Paul dit, il se donne sans compter. Il se donne pas seulement pour les chrétiens dans la ville de Colosse, mais Paul dit, il se donne pour les chrétiens à Hierapolis et à Laodicée. Pour trois groupes de chrétiens. Épaphras prie et il travaille. Il sert le Seigneur au sein de ces trois églises. Je me dis, c'est bien. On est tous des chrétiens qui peuvent prier. Hein? Tout chrétien peut prier. Tout chrétien ne peut pas servir le Seigneur, travailler le Seigneur, à cause des problèmes de santé, de l'âge et autre chose. Mais tout chrétien peut prier. Et si vous pouvez servir le Seigneur, faire des choses, eh bien, faites des choses pour le Seigneur. Si vous ne savez pas ce que Dieu s'attend de vous dans cette église, eh bien, allez voir un des anciens. Je suis sûr qu'ils auront tous une liste mentale de toutes les tâches visibles et cachées qui se font dans notre Église. Tout chrétien peut prier et beaucoup de chrétiens devraient aussi bosser, servir, travailler pour le Seigneur. Il y a aussi Luc, le toubib. C'est un médecin bien-aimé. Paul nous dit que c'est un médecin et ceux qui connaissent le grec en lisant l'évangile de Luc, Luc utilise pas mal de termes médicaux pour décrire certaines situations. Et c'était aussi évident que c'était un homme du monde de la médecine qui avait écrit l'évangile de Luc. Alors ce qui est intéressant, c'est que Paul et d'autres, souvent on parle des dons des guérisons au premier siècle, mais Paul avait toujours son médecin avec lui, son ami médecin avec lui. Ce qui veut dire que Dieu parfois guérissait par voie surnaturelle et parfois il utilisait un médecin, des médicaments. Dieu agit de la même manière aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me sens obligé de vous dire, si jamais quelqu'un vous dit « Dieu va vous guérir, mettez vos médicaments à la poubelle ou dans les toilettes », eh bien, réfléchissez bien avant de faire ça. Luc, le médecin, était toujours avec Paul et ses équipiers. Et Dieu peut nous guérir de façon surnaturelle. Mais Dieu peut aussi utiliser les médicaments et d'autres choses pour nous guérir. On doit être très, très prudent. Et c'est pour ça que je répète, si quelqu'un vous dit, oubliez les médicaments, oubliez les médecins, déchirez votre ordonnance, priez, Dieu vous guérira. Eh bien, réfléchissez plus d'une fois. Parce que ce n'est pas sûr que Dieu agira de cette manière-là. Démas, un autre. Démas est mentionné trois fois dans les épîtres de Paul. La première fois, à Philémon, Paul dit, Démas est un collaborateur. La deuxième fois, ici, dans Colossiens, il est juste marqué, Démas vous salue. Et la troisième fois qu'on parle de Démas, c'est dans la dernière lettre de Paul, et Paul dit, malheureusement, Démas m'a quitté. Le monde présent a gagné son cœur. Quelqu'un qui avait commencé à marcher avec le Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, il a décidé de quitter, de laisser tomber le Seigneur. Un autre nom qui est mentionné, c'est le mot Archip. Archip est peut-être le même Archip dont on parle dans Philippiens, qui était sans doute le fils de Philémon, l'épître à Philémon, pas l'épître aux Philippiens, pardon. Peut-être le fils de Philémon. Il était aussi un compagnon de combat Et Paul a un petit mot pour lui, un mot d'encouragement. Accomplis bien ton ministère. Alors, est-ce que Archip était découragé? Est-ce que dans son église, des gens l'avaient critiqué? Est-ce que des gens avaient essayé de le casser, de le démolir, de le décourager? Quoi qu'il en soit, Paul lui dit, veille à servir le Seigneur fidèlement. Accomplis bien ton ministère. Persévère dans ce que tu fais. Sois fidèle dans tout ce que tu fais. Sers le Seigneur malgré les découragements, malgré les on-dit, malgré les critiques, malgré les idées noires. Et je pense que c'est une parole pour nous tous. Nous qui servons le Seigneur au sein de cette église ou de notre église, eh bien, on a parfois besoin d'être encouragé. Oui, on est parfois critiqué. On est parfois découragé. On est parfois fatigué physiquement, nerveusement, spirituellement. Eh bien, la parole du Seigneur, c'est, eh bien, continue dans la voie sur laquelle tu as commencé. Sois fidèle dans les grandes choses et peut-être surtout dans les petites choses que personne ne voit. Sois fidèle. Et c'est pour ça qu'il prie, la grâce sera avec vous. Tout à l'heure, j'ai dit que les mots-clés qui résumaient les quatre premiers versets étaient persévérance, vigilance, reconnaissance. Je propose que ces mots-clés résument ce chapitre. Persévérance, vigilance, reconnaissance. Soyons persévérants, soyons vigilants, soyons reconnaissants. Parce que Dieu, il est bon. Et tous les jours, on a des tas de sujets de reconnaissance. Que Dieu bénisse sa parole. Thank you.